Beaucoup de choses dans l'actualité qui nous font réagir et qui viennent du gouvernement fédéral. Premièrement, je veux saluer tous les fonctionnaires fédéraux qui sont à l'écoute. C'est ma dernière aujourd'hui. Puis évidemment, la grande question, c'est est-ce qu'on va nous rappeler au travail? Parce que là, il y a du télétravail. Oui, c'est fonctionnel, mais c'est pas la même chose. Tout est modifié, tout est à être remodelé. Puis il y en a qui ont besoin physiquement de travailler depuis leur bureau. Dans une récente entrevue que j'avais faite avec M. McKinnon et également avec M. Fergus, on semblait dire que c'est pas tout le monde qui allait revenir au travail, mais beaucoup allait revenir physiquement au travail. Puis là, ben l'Alliance dit ce matin, Mario, dans les actualités, on en parle, on dit que pas avant l'automne.
Les fonctionnaires fédéraux?
Oui, dans le cas des fonctionnaires fédéraux.
Effectivement, là, pas de retour parce que théoriquement, il y en a à peu près que 2% qui ne pourraient pas travailler de façon fonctionnelle à la maison. Ça va plutôt bien.
Oui. Alors ça, c'est pour un. Puis deux, comment ils vont rappeler les gens au travail? Est-ce qu'on va vous donner un délai? Parce que là, vous avez organisé, tu faut que tu t'organises la garderie, les enfants, les ci, les ça, l'école. Il y a beaucoup d'implications là-dedans. Il y a l'équipement, la sécurité.
Les ascenseurs, juste pour monter à l'étage, s'il faut avoir la distanciation, dans l'ascenseur, tu peux pas monter tout le monde en même temps, comme c'était le cas avant, quand tout le monde arrive vers 6h30, 7h le matin.
Alors, la vie ne sera plus jamais pareille. Et d'après ce que je comprends, dans les politiques, là, ce qu'on m'a raconté, quelques gestionnaires à gauche et à droite, ben ça va être un genre d'avis de 15 jours avant le retour officiel au travail qu'on va envoyer aux employés. Fait que vous allez avoir une période de 15 jours pour tout organiser vos affaires. Puis eux autres, de leur côté, ils sont à mettre en place des stratégies, des plans pour pouvoir s'assurer que les fonctionnaires vont retourner dans un milieu de travail parfaitement sécurisé, fonctionnel. Puis pour d'autres, votre milieu de travail sécurisé, fonctionnel, ça va être à la maison. Fait que c'est comme ça que ça va fonctionner. Ceci étant dit, on apprend également que le gouvernement fédéral a présenté une fameuse application de traçage de la COVID-19. Moi, je ne comprends pas trop comment ça marche, c'est quoi qu'il propose, mais en bout de ligne, quelqu'un qui est avec nous qui va nous l'expliquer, un spécialiste en cybersécurité. Steve Waterhouse est là. Bonjour, Steve.
Bonjour, Michel.
Comment ça va ce matin?
C'est une autre belle journée à passer à l'intérieur pour travailler.
Absolument, absolument. Il fait tellement chaud, surtout cet après-midi. Écoute, c'est quoi ça, cette application-là qui a été présentée par le gouvernement? Ça marche comment, donc?
Ben, c'est une application comme une trentaine de pays dans le monde se sont procurés et qu'ils ont même mis à jour récemment. Parce qu'au Canada, il ne faut pas oublier, le 1er avril, ils en ont distribué une. Elle n'a pas été trop publicisée. Mais là, on arrive avec une deuxième génération qui, elle, va travailler avec un cadre de travail, un framework que Apple et Google ont mis de l'avant sur l'utilisation des téléphones intelligents. Donc, la personne volontairement télécharge l'application qui va être mise en distribution le 1er juillet en Ontario pour commencer, puis le Canada après, va télécharger l'application et s'auto-déclarer de son état de santé. C'est ça qui est un peu bizarre. Et la personne, donc, s'auto-déclare comment elle se sent. Et au fur et à mesure que la personne interagit avec des gens par le protocole Bluetooth de proximité, ça a porté à peu près de 10 mètres ou 32 pieds, va pouvoir, à ce moment-là, échanger de façon anonyme son état de santé et son niveau de risque, je devrais dire. Et toutes les personnes qui font le même genre de travail, ben ils vont s'échanger le niveau de risque. Et l'algorithme va déterminer si, effectivement, il y a un haut taux de probabilité de la contamination entre les différentes personnes avec lesquelles ça a interagi. Ceci va donner un niveau, justement, de risque et laisse savoir par un message sur le téléphone à la personne, bien, vous avez été en contact possiblement avec des gens à risque, COVID, rapportez-vous aux autorités sanitaires, faites-vous tester, des choses comme ça. Fait que ça, c'est la façon de base que les applications, une fois distribuées, vont pouvoir, à ce moment-là, possiblement aider les gens.
Alors, Steve, sur une base volontaire, je télécharge l'application. Je tousse un peu, je renifle, je suis pas sûr que j'ai la COVID, j'entre ces informations-là, je le dis. J'ai un test positif, j'entre les informations dans l'application. J'ai un test négatif, j'entre les informations dans l'application, j'imagine. Voilà. Puis là, après ça, l'informatique fait en sorte, là, dans les clouds, puis les connexions, puis les liens cellulaires, que quand je circule, mon téléphone vient à bout de me dire « Bon, ben là, t'as été à tel endroit, ben sans le dire précisément, t'as possiblement aujourd'hui croisé trop de monde qui avait des risques de COVID-19, mettons. »
Et Michel, ça ne sera pas dit précisément, tu as été en contact à telle place avec telle personne. Ça va juste être, mentionné parce qu'il n'y a pas de documentation GPS là-dedans. Ça va juste être dit, ben, vous avez été possiblement en contact au cours des 48 dernières heures avec quelqu'un, soyez vigilant ou rapportez-vous pour tester. Il y a une haute probabilité que vous avez été infecté.
Mmh. Wow! Mais là, faut-il encore que les gens l'utilisent, mais presque de façon obligatoire, parce que sinon, je suis pas sûr que la personne que la COVID-19 veut le dire à son téléphone cellulaire, puis s'il le dit pas, ben, y a personne qui va le savoir, là.
Mais t'as aussi le contraire, Michel, où est-ce que t'as des gens qui pensent l'avoir parce qu'il y en a qui sont sensibles, tu sais, puis ils vont dire à ce moment-là, juste parce qu'il y a un petit tout le matin, parce que la gorge est un petit peu irritée, ils vont dire, hey, là, je suis COVID, c'est sûr. Fait que là, ça va générer des faux positifs aussi.
Ben oui.
Et ça va donner le faux sentiment, encore une fois, puis ça, c'est mon opinion, de l'application. Les gens vont se dire, ben, la star, j'ai plus besoin de me laver les mains. Tout ça, l'application va me dire si je suis à risque ou pas, si je suis malade ou pas. Mm. Ce qui est faux, ça va donner une idée de la possibilité que ça soit le cas, mais faut pas perdre des bonnes habitudes jusqu'à présent, de continuer donc à garder ses distances, toucher dans son coude, etc., pour garder la propagation à un minimum.
Bon, toi qui es un spécialiste en cybersécurité, là, c'est une chose de voir les bienfaits qu'on pourrait avoir d'un système comme celui-là qui nous prévient de ça, j'ai pas de trouble.
Ouais.
Maintenant, ces jours-ci, là, les données personnelles puis l'information personnelle, surtout côté médical, je me demande si est-ce que c'est sécur ou comment tu vois ça?
Dans les meilleures pratiques qui sont appliquées présentement, l'anonymisation, si c'est un terme qu'on peut utiliser, mm-hmm. Ça devient vraiment, oui, l'élément clé. Donc, ça enlève toute relation de non-identification avec la condition médicale. Et si c'est fait avec les bonnes pratiques, oui, Michel, ça, c'est sécuritaire. Où est-ce que ça va être conservé au service numérique canadien, que j'ai appris récemment qu'il existait, ça se veut d'être, encore une fois, selon les meilleures pratiques, sécuritaire, où ça va être. Où est-ce que c'est un petit peu bizarre, c'est dans la communauté de la sécurité d'information, personne n'a accès jusqu'à présent au code que les volontaires de Shopify ont développé et que BlackBerry a contribué. À date, c'est un code fermé. Un code fermé, donc, ça veut dire que ça appartient à des entités bien précises. Contrairement, exemple, avec l'application COVID du groupe Mila à Montréal, mais qu'eux, ils mettaient à distribution le code et les programmeurs pouvaient revoir qu'est-ce qui était pour être fait, accompli par l'application. Ce qui donne un gage de transparence. Et ça, c'est important lorsqu'on veut faire de la protection de la vie privée et du renseignement personnel.
Mila, ça marche comment, là, si on comparait à l'application que le fédéral voudrait qu'on utilise?
La grosse différence que Mila a par rapport à qu'est-ce qu'on vient de décrire, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire le tri et la digestion de l'information qui aurait amené d'autres la distribution de d'autres informations ou d'état de la perception dans la communauté. Ça, c'est la façon que Mila se disait qu'il pouvait utiliser la donnée avec l'intelligence artificielle, mais qu'on a appris un peu plus tard aussi qu'il voulait monétiser l'information. Ça, c'est un petit peu un gage qu'on est plus ou moins d'accord avec ça, je crois, dans l'ensemble de la population. Mais ceci dit, ça aurait été quand même intéressant de l'explorer avec l'intelligence artificielle, mais pour certains, ils voyaient que c'était pas aussi fluide et aussi neutre que le modèle Google-Apple propose de son architecture.
Bon. C'est quoi les autres produits qui sont sur le marché, là? Parce qu'il y en a qui voudraient bien avoir un genre de monitoring. Suis-tu à risque? Est-ce que je me mets à risque tous les jours ou si, dans le fond, je suis correct? Qu'est-ce qu'il y a sur le marché qui peut nous aider ou qui peut aller en ce sens-là?
Bien, Michel, on peut en faire l'élaboration jusqu'à demain matin de toutes sortes de solutions fantasmagoriques qui existent sans diminuer personne. Je veux dire, tout le monde, à date, les entrepreneurs ont emporté sur le marché beaucoup de solutions qui permettent d'aller, exemple, jusqu'au bracelet à apposer sur des gens qui sont positivement identifiés pour qu'il y ait une comment je dirais donc en français, elle m'a dit en anglais,
un signe de distinction qui nous permet tout de suite repérer quelqu'un qui l'aurait eu.
Et avertir si jamais il sort de son confinement. Et ça, c'était donc l'extrême des situations que ça aurait pu donner un élément positif puis prévenir que quelqu'un qui est déclaré positif s'en mm-hmm. aille tout partout puis contamine le monde. Mais c'est là que ça attaque les droits civiques d'une façon très importante et surtout ça crée une grosse discrimination. Fait que là-dessus, il y a des éléments légaux, je crois, qui ont été correctement étudiés pour prévenir ce genre de discrimination-là, de ségrégation, pour amener à ce que ça soit encore là les gens sur une base coopérative. Parce que l'autre extrême, ça aurait été mettre la loi des mesures d'urgence en fonction. Et là, tous les droits civiques auraient été suspendus, puis le gouvernement aurait pu imposer justement toutes sortes d'outils, toutes sortes de façons de faire. Fait que jusqu'à date, on s'en est sorti comme ça. Puis ce sont des outils qui se présentent sur le marché de cette manière-là, qui donnent un peu plus, qui donnent l'aide, c'est-à-dire pour avoir un peu plus d'informations.
Comme dirait à l'émission Tout le monde en parle, la question qui tue, Steve. Quelle application tu as dans ton téléphone, toi, et quelle application tu utiliserais?
Ce qui est ironique, Michel, je l'ai quasiment oublié hier lorsque j'en parlais, je pourrais même pas l'utiliser sur mon propre téléphone parce qu'il est trop vieux. Autrement dit, pour utiliser cette application-là qui va être distribuée le 1er juillet prochain, il faut que ça soit avec des appareils dont Apple iOS version 13.5, que la structure de travail est présente dedans. Et la même chose, dans les dernières semaines, ceux qui ont des téléphones Android ont reçu la structure d'information Google appropriée pour être capable d'utiliser cette prochaine application qui va apparaître là encore là au 1er juillet. Fait que pour ça, il faut avoir une structure récente, autrement dit, un système d'exploitation récent. Fait que si je prends l'autre téléphone à côté, que j'ai iOS 13.5 et des poussières, bien là, à ce moment-là, je voudrais l'utiliser pour comprendre son fonctionnement. Mais est-ce que ça va m'aider, justement, à me sentir en sécurité? Pour moi, la réponse, c'est non. Ça va donner un faux sentiment de sécurité par la façon de volontaire de dire l'information et non pas les services santé qui injectent nécessairement. Puis ça, c'est une affaire, j'oubliais, Michel, important, que le ministre a dit hier. C'est qu'il y aurait collaboration des services santé des provinces à donner les états de santé des COVID positifs au système de l'application pour que ça soit inséré dans la circulation des clés d'identifiant des gens. Et ça, j'ai pas vu, puis avec toutes les personnes que j'ai parlé, on n'a pas vu de protocole d'échange uniformisé adopté pan-canadien qui ferait que tous les services santé du pays seraient capables d'interagir avec l'application comme ça a été annoncé. Fait que ça va être une belle affaire à surveiller, comme comment est-ce que les services santé, comme exemple la RAMQ, va pouvoir contribuer à l'application centrale et dire ben voici, on a 150 cas COVID dans telle région, puis là, à ce moment-là, la région va être au courant qu'il y a 150 cas potentiels qui se promènent.
Oui, c'est intéressant. Franchement, là, c'est intéressant, mais en même temps, ça me décourage de savoir que si tu n'as pas un téléphone récent, tu peux pas en profiter. T'sais, on n'a pas tous ça. Nous autres, on a des vues ici, là, des iPhone 7. Là.
Tout à coup. Mais iPhone, de mémoire, iPhone 7 est capable de soutenir iOS 13.5. Le minimum, c'est l'iPhone 6S, si mon souvenir est bon. Un iPhone 6 qui pourtant marche très bien, ben, il ne pourra pas en profiter de cette application-là.
Puis toi, as-tu encore un flip, coudonc, pour ne pas avoir le iOS? Là?
Ben, j'ai des téléphones qui sont pas modernes pour des raisons bien spécifiques. Puis j'en ai d'autres qui sont modernes avec lesquels je vais pouvoir profiter de cette application-là parce que le système d'exploitation est à jour.
Steve, toujours un plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous de nous avoir expliqué tout ça ce matin.
Un plaisir. Bonne fin de semaine, Chad.
Bonne fin de semaine. Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité, fondateur de son entreprise également InfoSec SW. On s'arrête là-dessus. 8h37 dans quelques instants. La Rose! Tania Nollet revient avec les arts et spectacles.